Salut à tous, vous êtes dans le Labomatique, l'émission de Radio Campus Rennes dédiée à l'actualité de la recherche scientifique. Objet de débats politiques et sociétaux, les classes préparatoires ne finissent pas de nourrir fantasmes, jalousies et critiques. Il est un fait établi et qui est loin d'être une surprise. Les classes préparatoires cristallisent à un degré élevé la perpétuation des inégalités sociales à l'école. Plus généralement, la formation scolaire des élites et la contribution du système scolaire à leur reproduction sociale ne constituent pas des sujets nouveaux en sciences sociales. Il n'y a qu'à rappeler le célèbre ouvrage de Pierre Bourdieu, La noblesse d'État, Grandes écoles et esprit de corps, paru en 89 aux éditions de Minuit. Bourdieu convoquait alors toute son armature conceptuelle au service d'une lecture critique de la constitution sociale des classes dominantes, et notamment dirigeantes. Des publications existent ici et là sur les grandes écoles et les classes préparatoires, sans pourtant avoir été étudiées pour elles-mêmes. Si l'on comprend aujourd'hui très bien pourquoi certains plus que d'autres parviennent à y accéder et réussir, la sociologie s'était encore peu intéressée au processus en jeu à l'intérieur des prépas, et qui contribue pourtant à expliquer la reproduction sociale des élites. Muriel Darmon est chercheure sociologue à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle a non seulement été l'auteur d'un très utile état des lieux des travaux sur la socialisation, grâce à son ouvrage « La socialisation » paru en 2006 aux éditions Armand Collin, mais également d'un ouvrage sur l'anorexie, « Devenir anorexique, une approche sociologique », ouvrage paru en 2008 aux éditions La Découverte.
Vous avez publié donc l'année dernière aux éditions La Découverte, Les classes préparatoires, la fabrique d'une jeunesse dominante. Pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler de ce dernier ouvrage, on peut peut-être déjà préciser qu'il a été super bien accueilli par les spécialistes, parce qu'en fait il comblait un manque dans la sociologie, ce qui est assez étonnant alors qu'on sait que la sociologie a très tôt fait un cas d'école des inégalités sociales à l'école.
Effectivement, oui, merci de me recevoir pour cette discussion, et effectivement c'est très étonnant quand on regarde d'un côté tout ce qu'il y a eu sur les difficultés scolaires, les échecs, les exclus du système scolaire, et qu'on regarde de l'autre côté, du côté des excellences, des réussites, etc. Enfin, beaucoup moins de choses, donc quelque chose, mais quelques textes, etc. À commencer par l'ouvrage très célèbre de Pierre Bourdieu sur la noblesse d'État, donc sur les grandes écoles et un peu les classes préparatoires. Mais depuis, c'était publié en 89, avec des données qui remontaient parfois avant mai 68 même. Depuis, assez peu de choses sur les classes préparatoires grandes écoles et assez peu de choses sur les grandes écoles elles-mêmes.
Est-ce que vous pourriez peut-être déjà commencer par revenir sur la façon dont vous avez conduit votre enquête de terrain, puisque on sait qu'il y a trois types de prépa, donc les prépas éco, lettres, et ensuite une prépa scientifique. Comment ça s'est passé pour conduire cette enquête et combien de temps ça vous a pris à peu près ?
En fait, ce qui me paraissait important, c'était de rentrer dans les classes préparatoires, justement à cause de ce manque qu'il fallait combler, qui était un manque de données, je dirais, bon, avant tout qualitatives, un manque parce qu'en fait, des statistiques sur qui est-ce qui rentre en prépa, qui est-ce qui sort des prépas, ça, on les avait et on savait, et c'était des statistiques qui confirmaient année après année, malheureusement, la reproduction sociale, pour parler comme Bourdieu, mais disons la sélection sociale des élèves de classes préparatoires. Mais en revanche, on avait là encore moins de choses, si on peut le dire comme ça, sur ce qui se passait dans ces classes préparatoires et sur comment on pouvait, sur leur quotidien, au-delà effectivement des témoignages. Parce que ça, c'était une chose, un matériau qui était disponible, c'était les témoignages des anciens élèves, des enseignants parfois, mais qui étaient beaucoup des débats parfois très vifs entre eux, un peu de défenseurs et critiques des classes préparatoires. Du coup, bon, moi, il me paraissait très important de rentrer dans ces classes préparatoires et de travailler, donc, avant tout par observation, mais aussi par entretien, c'est-à-dire d'aller passer, de faire une enquête ethnographique, d'aller passer 2 ans au quotidien, aux côtés, si on peut le dire comme ça. Et j'ai pris 4 classes de prépa scientifique et de prépa économique que j'ai suivies au fur et à mesure de leurs 2 années, de 2 années de scolarité classique, sachant que certains élèves sont partis au bout de la première année et d'autres en ont fait une 3e. Mais bon, que j'ai suivi au quotidien en assistant, en observant les cours, l'école, qui sont des examens oraux que ces élèves passent, les conseils de classe où beaucoup de choses se disent sur ce que c'est qu'un bon élève ou un mauvais élève de classe préparatoire. Et puis, parallèlement, j'ai mené donc des entretiens avec les élèves eux-mêmes pour comprendre un peu ce que la prépa leur faisait, aussi ce qu'ils faisaient de la prépa, ce qu'ils en disaient, etc., au fur et à mesure de ces deux années. Et donc, là aussi, c'était méthodologiquement quelque chose qui était important pour moi. C'était de faire plusieurs entretiens avec les mêmes élèves. Donc, je n'ai pas fait tous les élèves de ces quatre classes, mais les élèves que j'ai suivis, justement, je les ai suivis. C'est-à-dire que je les ai rencontrés une première fois quelques jours après la rentrée, dans l'idéal. Une deuxième fois pour, discuter de leur expérience de la première année, plutôt vers la fin de la première année, qui est un moment qui est bien pour les entretiens, parce qu'ils commencent à avoir un peu plus de temps, justement. Bon. Et enfin, une troisième fois, au cours de la deuxième année, qui est l'année des concours. Donc là, c'était plus difficile à fixer comme entretien, mais du coup, voilà. Et puis aussi, ensuite, avec des contacts mails sur comment s'étaient passés les concours et quelle était l'issue de cette année pour eux.
Alors effectivement, c'est un matériau qualitatif que vous proposez dans cet ouvrage et vous décrivez finalement quelque chose très finement, c'est le processus de socialisation des étudiants de classe prépa. Donc du début à la fin de la prépa, comment on produit une jeunesse dominante, finalement c'est la question un peu de l'ouvrage. Ça peut paraître un peu éloigné du sujet de ce soir au champ libre, c'est-à-dire les usages sociaux du temps par les étudiants. Peut-être pour expliquer aux auditeurs, partir de deux notions que vous développez dans l'ouvrage. Donc déjà la notion d'institution enveloppante qui vous sert à décrire un peu ce processus de socialisation, ce qui pourrait peut-être nous mener aussi à décrire la façon dont ce processus est avant tout temporel.
Donc en effet, avant d'en venir à la question des apprentissages temporels, il faut d'abord parler de ce qui rend possible ces apprentissages temporels. Et si les étudiants de classe préparatoire ou les élèves de classe préparatoire, comme on les appelle parfois, apprennent le temps en classe préparatoire, et j'y reviendrai, c'est parce que l'institution est suffisamment puissante pour effectivement leur faire apprendre une chose aussi disons profonde et parfois même inconsciente qu'un rapport au temps particulier. Donc institution puissante que j'appelle enveloppante pour désigner la façon dont elle a prise en fait sur ces élèves-là, à la fois de manière en organisant disons de façon militaire, pour le dire comme ça assez vite, leur quotidien. Ça c'est quelque chose qui est su, mais donc je travaille à l'aide de certains concepts sociologiques, mais de manière disons basique, c'est leur quotidien est rythmé par l'emploi du temps de la classe préparatoire qui effectivement s'impose à eux avec une faible possibilité, disons, d'aménager des temps très libres à l'intérieur. Donc c'est un emploi du temps qui est très contraint. Une des choses que je travaille particulièrement sur cette question de l'institution enveloppante, c'est la façon dont elle va instaurer un certain type justement de défilement du temps. J'ai parlé d'avance rapide en fait qui s'instaure, c'est même les lois temporelles, c'est un peu voilà une manière disons un peu en boutade de dire les choses, mais le temps n'obéit pas aux mêmes lois à l'intérieur des murs de la classe préparatoire qu'à l'extérieur. Et ces lois sont des lois d'avance rapide. Les enseignants, enfin, et ça c'est l'observation des cours en fait qui rend possible de voir ça, mais les enseignants ont un monceau pléthore de petites expressions, de petits mots, de petites façons d'organiser leurs cours qui parsèment les cours et qui vont faire que les élèves ont le sentiment d'une urgence qui s'installe très vite. Donc quand ils arrivent en prépa, ils sont reçus par un discours du proviseur. Dans ce discours du proviseur, il y a des dizaines de notations temporelles qui en gros font passer l'idée, même sans le dire explicitement, que eh ben voilà, il faut se mettre au travail, que le temps est compté et qu'il faut en faire l'usage le plus efficace possible. Et de même, dans les cours, il y a aussi ces dizaines de notations temporelles, de projection des élèves dans le futur, mais le futur c'est déjà maintenant. Donc en fait, le temps est absolument accéléré et c'est ces types d'avance rapide qui vont produire, encore une fois, que les élèves en aient conscience ou pas, mais un certain type de rapport au temps particulier, ou en tout cas déjà d'urgence temporelle particulière, de nouvelles lois temporelles.
Donc il y aura formation d'une expérience nouvelle pour les étudiants donc, en classe préparatoire, qui sera avant tout marqué par cette urgence du temps. On peut se poser quand même la question de savoir quelles sont les caractéristiques peut-être plus précises que vous avez pu identifier lors de l'enquête de terrain de ces usages du temps en classe prépa et qui permettraient peut-être de les distinguer d'autres types de formation de l'enseignement supérieur.
Une des choses en fait que j'ai pas dit tout à l'heure et qui est importante à prendre en compte, c'est que du coup il n'y a pas de matière en classe préparatoire scientifique ou économique qui s'appelle apprentissage du temps. Et pourtant, ce qu'on peut qualifier de socialisation silencieuse, parce que justement, elle n'est pas explicite, elle ne se dit pas comme telle, mais fait que les élèves vont apprendre un certain type de rapport au temps. Ce type de rapport au temps, bien, c'est une logique de l'urgence, une logique de l'avance rapide dont j'ai parlé, mais également, et ça peut-être par rapport à, d'autres usages du temps ou disons normes temporelles dans l'enseignement supérieur, une individualisation, voilà, très forte du management, si vous voulez, des élèves par l'institution. C'est-à-dire qu'il va y avoir une individualisation forte de l'usage que les élèves font du temps, un contrôle des absences. En classe préparatoire, contrairement à l'université, on peut avoir des punitions temporelles. Une punition temporelle, c'est d'être collé un dimanche, de devoir revenir au lycée un dimanche pour faire un travail qu'on n'a pas fait ou pour répondre à un mauvais usage temporel ou autre qu'on a pu avoir, etc. Donc, cette individualisation du contrôle, il concerne plein d'aspects de la vie des préparationnaires, mais donc en particulier l'usage qu'ils font du temps. Et un des exemples qu'on peut prendre de cette individualisation de leur usage du temps, c'est l'école dont j'ai parlé, la façon dont donc ce sont des examens oraux, par exemple en prépa scientifique, les élèves ont l'habitude très fréquemment, plusieurs fois par semaine parfois, de passer au tableau devant leur enseignant. Et ils doivent réaliser un exercice devant les yeux de l'enseignant. Et ce qui est très spécifique dans ce type de travail-là, c'est que le temps qu'ils vont mettre à se souvenir de tel théorème, le temps qu'ils vont mettre à résoudre telle ou telle question est directement observable par l'enseignant. Et c'est pas comme un devoir écrit ou pire, de ce point de vue-là, quelque chose qu'on fait à la maison. C'est-à-dire que le temps qu'on met à faire les choses est directement observable, notable, évaluable par l'enseignant. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement une sorte de pression temporelle. J'ai pris cet exemple-là, mais évidemment, il y en aurait d'autres. Il y a une pression temporelle et individualisée qui est tout à fait spécifique, je pense, à la pression préparatoire, à l'institution enveloppante, classe préparatoire, etc.
Est-ce que, finalement, cette pression temporelle participe aussi de la notation, par exemple, des élèves ?
Une des choses qu'ils apprennent et qu'ils sont censés apprendre en classe préparatoire, et puis ensuite, est-ce qu'ils l'apprennent ou pas, ça, voilà. Une des choses qu'ils sont censés apprendre en classe préparatoire, c'est à faire les choses sous pression temporelle. Et donc, est noter à la fois, dans ces cas-là, si vous voulez, la réalisation de l'exercice, la réussite ou l'échec de l'exercice, mais également la gestion temporelle et la gestion du temps des élèves. Est-ce qu'ils ont su directement comprendre que telle question, ça allait leur prendre trop de temps et qu'il fallait passer à l'autre ? Est-ce qu'ils ont su bien gérer leur temps pour faire les deux tiers de l'exercice ? Parce que de toute façon, personne n'est censé faire l'exercice dans sa totalité, donc il faut le comprendre tout de suite et essayer de faire le maximum. Enfin, toute cette ces connaissances de soi-même face au temps, de comment on gère le temps, etc., deviennent des connaissances directement scolaires. Et ça, quelque chose qui peut se retrouver aussi à l'université, ça, c'est pas une spécificité en quelque sorte en soi, mais en revanche, la systématicité avec laquelle ce rapport au temps des élèves est évalué, en fait, en classe préparatoire, est quelque chose, oui, je pense, de tout à fait spécifique.
Alors, jusqu'ici, on parle de classe préparatoire sous la forme d'un bloc un peu monolithique. Bon, on l'a dit, il y a trois types de classe préparatoire. Est-ce qu'elles se distinguent par rapport à la norme temporelle dont vous parlez, qui est caractéristique des classes prépa ?
Alors oui, la réponse est oui. Et pour la développer un peu, donc je n'ai pas travaillé sur les classes préparatoires littéraires, donc là j'en parlerai pas, même si j'aurais des choses à dire en tant qu'agent social et non pas sociologue sur ces classes-là, puisque c'est un système par lequel je suis passée. Mais en ce qui concerne les classes préparatoires économiques et les classes préparatoires scientifiques, oui, il y a des différences entre ces deux filières dans le rapport au temps et les normes temporelles. Une des choses qui rend difficile la comparaison, vous garderez ou non. Mais une des choses qui rend difficile la comparaison, c'est le fait que j'ai observé ces deux classes en tant que filières différentes, mais c'était aussi des classes de niveaux différents. Et qui veut dire niveau différent dit aussi, disons, pression y compris temporelles, différentes. Les classes scientifiques que j'ai observées sont des classes scientifiques vraiment situées très haut dans la hiérarchie, avec beaucoup d'élèves qui potentiellement peuvent prétendre aux meilleurs concours, et donc une pression temporelle plus forte. Mais une différence potentielle entre classes scientifiques et classes économiques, dans le fait que les classes économiques ont un rapport au temps qui apparaît de prime abord un peu plus moqueur, un peu plus lointain, un peu plus... Il y a un jeu avec le rapport au temps. Il y a une résistance collective au rapport au temps, des sortes de chahuts qui sont très acceptés hein, par les enseignants, qui font partie de la tradition des classes que j'ai observées, mais donc des chahuts assez sages, pas non plus des révolutions à l'intérieur de la classe, mais des chahuts qui consistent justement à faire traîner un peu certaines choses, à applaudir certaines réponses. Donc ça fait perdre du temps, à jouer de ce jeu de perte du temps, à manifester en fait un rapport justement plus distant aux normes temporelles. Là où, dans les classes scientifiques que j'ai observées, il y avait au contraire une sorte de rapport plus scolaire aux normes temporelles scolaires, préparationnaires, et donc une sorte d'obéissance plus stricte, en fait, à l'avance rapide préparatoire, à la pression temporelle, etc. Donc ça, c'est des choses qui tiennent à, je ne vais pas développer, mais qui tiennent à la culture différente de ces filières. On n'est pas préparationnaire scientifique comme on est préparationnaire économique. Il y a des rapports à ce que c'est que la prépa qui sont différents, et donc des rapports au temps préparatoire qui sont effectivement différents.
Ensuite, lorsqu'on parle de normes temporelles, ou tout simplement de normes en sociologie, ça permet de distinguer souvent des groupes, c'est-à-dire ceux qui réussissent à satisfaire à la norme et ceux qui n'y arrivent pas. Il me semble que dans votre ouvrage, vous réussissez à distinguer deux types de profils d'étudiants, avec des expériences et des rapports au temps qui sont bien distincts. Vous parlez des maîtres du temps et des dominés temporels. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser un peu les contours de ces profils ?
Les maîtres du temps en prépa, c'est une figure qui apparaît assez rapidement, dans les entretiens avec les élèves, voire dans les cours. En gros, déjà, ils parlent de leurs enseignants comme des maîtres du temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent fixer le temps, qui en fixe le déroulement, etc. Mais très rapidement, il parle aussi de certains élèves, parfois sur un mode un peu mythique, comme étant les maîtres du temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, sur cette figure mythique ? Bah, c'est par exemple l'élève qui va rentrer, dont on me décrit, qui va rentrer en classe, il est un peu en retard, il arrive, il jette un coup d'œil à l'exercice que le prof est en train de faire au tableau, et il est capable, donc vous voyez, il y a un côté assez mythique, assez légendaire, et il est capable en fait d'anticiper, d'être déjà 100 milieux en avance même sur l'enseignant, donc ce qui est, voilà. Et voilà, c'est aussi cette figure un peu mythique, donc je reviendrai ensuite sur ces composantes réelles, hein, mais figure un peu mythique, le maître du temps, c'est celui qui, en prépa, travaille un peu comme il le souhaite, mais qui néanmoins a des très bons résultats, qui va pouvoir continuer à s'occuper de son groupe de rock, tout en continuant à avoir des très bons résultats, etc. Donc tout ça, ça forme cette figure un peu qui est regardée avec admiration, qui est respectée, etc. Est-ce que ça a vraiment ensuite un sens réel et pas seulement légendaire ou mythique, voilà. Sachant qu'il y a certains élèves qui peuvent jouer de cette figure mythique, qui peuvent dire qu'ils n'ont pas travaillé alors qu'en fait ils ont travaillé, qui peuvent dire qu'ils sont allés à un concert de rock mais en masquant le fait que par ailleurs ils auront travaillé pendant la nuit après pour récupérer, etc. Donc il y a un jeu autour de ce qu'on appellerait en sociologie le capital symbolique de cette figure hein, des maîtres du temps, qui est une figure qui est légitime, qui donne du prestige. Eh bien, en réalité, il se trouve que c'est pas si mythique ou légendaire que ça de dire qu'il y a effectivement des différences entre, disons, grossièrement deux types d'élèves, ou en tout cas des élèves qui effectivement manifestent par rapport à différents critères une maîtrise temporelle, et d'autres qui en gros manifestent une soumission, une sorte de panique temporelle plus grande. Donc les maîtres du temps ou les élèves qui vont manifester une maîtrise temporelle, ça va être ceux qui justement vont continuer à pouvoir maîtriser leur emploi du temps en classe préparatoire par rapport à l'urgence, par rapport à l'avance rapide. C'est ceux qui vont dire, moi je m'arrête à 9h de toute façon tous les soirs parce que si je travaille trop tard, après je ne dors pas. Par comparaison, d'autres élèves vont dire, moi je n'arrive pas à m'arrêter de travailler. Je travaille jusqu'à minuit, je travaille jusqu'à 1h, je travaille jusqu'à 2h. Donc on pourrait penser que du coup, les élèves les plus dominants, les meilleurs élèves, c'est plutôt ceux qui vont travailler plus tard. Mais en fait non, quand on regarde les résultats, on s'aperçoit que la posture dominante, c'est celle qui consiste à dire, il y a un moment où il faut s'arrêter de travailler. Pouvoir dire ça, il y a un moment où il faut s'arrêter de travailler. Il y en a qui ne peuvent pas. C'est la posture qui consiste à prendre son temps, à dire, ben voilà, j'ai pris mon temps pour voir un film, là où d'autres élèves vont dire, j'arrive jamais à prendre mon temps, tout ce que j'arrive à faire, c'est perdre mon temps. Donc, on a comme ça des systèmes d'opposition entre deux pratiques, deux usages du temps. Et une des choses que j'ai cherché à montrer, c'est que ces deux usages du temps ne se situent pas au hasard dans l'espace social, et notamment dans l'espace social des classes sociales. En gros, les étudiants d'origine supérieure, moyenne ou supérieure, sont bien plus disposés à devenir ou à manifester ces pratiques et ces usages de maîtrise temporelle. Et en fait, les étudiants qui dénotent le plus de panique temporelle, de difficulté à gérer le temps, etc., sont les rares étudiants de classe populaire que j'avais dans mon corpus, sachant que, de toute façon, l'inégalité sociale du recrutement des classes préparatoires fait que voilà, le groupe le plus important est de toute façon composé d'étudiants de classe supérieure. Tous ne sont pas forcément des maîtres du temps, mais en tout cas, les maîtres du temps sont bien plus fréquemment des élèves et des enfants des classes supérieures. Du coup, ça interroge effectivement la façon dont ces rapports au temps sont des rapports sociaux, sont des rapports, y compris des rapports de classe, dont il faudrait savoir où ils s'incorporent, quand ils s'incorporent, etc.
Donc, résultat, vous introduisez finalement une réflexion en termes d'inégalité sociale, en distinguant des classes sociales bien distinctes, avec des expériences du temps bien distinctes, qui sont socialement distribuées. Peut-être avant de revenir sur cette question centrale, je pense, de votre travail, qui est la question des inégalités, rajouter un élément peut-être pour les auditeurs, c'est que en faisant la distinction entre les maîtres du temps et les dominés temporels, vous dites finalement que cette maîtrise temporelle, elle va jouer un rôle décisif dans les apprentissages qui vont être faits en classe préparatoire et dans le rapport au savoir. Est-ce que vous pourriez préciser la façon dont se connectent un peu ces interrogations ?
Et effectivement, disons, la posture de maîtrise temporelle, c'est celle qui correspond à l'excellence scolaire, en théorie, demandée par la classe préparatoire. Donc, je vais répondre en deux temps. Dans un premier temps, en disant que, effectivement, ces postures de maîtrise temporelle, c'est celles qui permettent de garder le rythme. Et donc, c'est celles qui permettent en théorie de la réussite scolaire des élèves qui sont du bon côté de la maîtrise temporelle. Mais une chose qui m'a intéressée et qu'on peut voir aussi, c'est que le rapport social au temps, en quelque sorte, est tellement fort qu'il est même plus prédictif, si vous voulez, que vraiment les résultats scolaires. En gros, on peut avoir des enfants des classes supérieures avec un rapport dominant au temps et néanmoins des résultats qui sont pas forcément les meilleurs. Et ça veut dire que c'est vraiment une disjonction entre les... C'est pas seulement le fait d'être bon en prépa qui vous permet d'être un maître du temps. C'est bien dans l'autre sens que ça marche. C'est-à-dire, c'est bien, en gros, un rapport au temps dominant qui ensuite va faciliter, disons, la réussite scolaire. De ce point de vue-là, j'ai justement travaillé tout particulièrement des cas, comme je l'ai dit, de disjonction. Donc là, j'ai pris un cas de classe supérieure, mais on peut aussi, un cas d'enfant des classes populaires en classe préparatoire qui réussit tout à fait bien et qui est très bien classé scolairement, mais qui n'en garde pas moins un rapport au temps fait de panique, fait de soumission, fait de crainte, qui n'est pas du tout révélateur, si vous voulez, de son niveau. Il pourrait se permettre, pour le dire comme ça, un rapport au temps beaucoup plus dominant, mais on voit bien que ce rapport au temps est en quelque sorte plus profond même que le rapport scolaire, et donc et lui préexiste en quelque sorte.
Alors là, vous parlez donc d'un rapport au temps socialement distribué à l'intérieur de la classe préparatoire, sauf que bon, les élèves ne sont pas que des élèves, ce sont aussi des personnes avec des familles et des trajectoires biographiques bien identifiables pour certaines. Vous dites dans votre ouvrage que un flou en fait existe entre le temps des études et celui des loisirs en classe préparatoire, qui est finalement un continuum entre les deux. C'est peut-être là aussi qu'on peut saisir la question des inégalités sociales à l'école et notamment dans les classes dominantes.
Oui, disons que, alors, une des choses qui me paraît importante, c'est justement d'aborder les inégalités sociales avec ce prisme des inégalités temporelles. C'est-à-dire de dire, et ça rejoint la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, mais de dire qu'effectivement, les inégalités sociales devant l'école sont aussi des inégalités temporelles et que le temps joue dans ces inégalités. Disons que le flou entre temps du travail et temps du loisir en classe préparatoire, il est principalement lié au fait que le temps du loisir y est très réduit. Et du coup, les élèves vont reconquérir comme des temps de loisir, par exemple d'amusement en groupe, de blagues, de fou rire, etc., des temps de travail. Ils se mettent, ils sont censés travailler tout le temps, donc ils se mettent en groupe pour travailler tout le temps juste après avoir mangé à la cantine, mais du coup, on ne peut pas travailler tout le temps, et donc ça part en fou rire, en moment de délire, comme ils disent, qui sont des moments justement de relâchement apparent et dont ils parlent souvent avec beaucoup de plaisir dans les entretiens. Sauf que, ce faisant, ce qu'ils apprennent, c'est que voilà, un moment de travail intense est aussi un moment de plaisir, peut quand même être un moment de plaisir, de délire, de fou rire, etc. Et ils apprennent quelque chose qui est typique des rapports au temps des classes supérieures et qui est le fait qu'il y a une indistinction, un flou, une frontière, disons, très labile entre le travail et le loisir pour les classes supérieures. Et c'est quelque chose qui a été travaillé par la sociologie, en fait, surtout au moment de l'enfance et des éducations familiales. Il y a eu des travaux sur justement les jouets enfantins et le fait que dans les familles de classe supérieure, les jouets qu'on offrait aux enfants étaient des jouets éducatifs. Et donc, on apprenait déjà, en fait, par ces jouets éducatifs aux enfants, à considérer que le temps du jeu, c'est aussi un temps de travail, c'est un temps qui peut servir à la réussite scolaire, etc. Enfin, voilà. Quant aux familles populaires, il y a en revanche une culture populaire très forte de l'enfance et du jeu comme justement préservé de la contrainte scolaire. C'est quelque chose, justement, jouer quand on est enfant, c'est au moins, on n'a pas à se poser des problèmes de travail, que ce soit le travail scolaire ou le travail plus tard du monde du travail, qui est un monde effectivement dur et opprimant, oppressant pour les classes populaires. Donc, voilà. Donc, au contraire, l'enfance et le jeu comme un lieu préservé, un moment préservé du temps du travail et de l'éducation. Et du coup, ce sont des petites choses très tôt, très précoces dans la petite enfance des uns et des autres qui vont construire des rapports très très différents à ce que c'est que le travail, ce que c'est que le jeu, etc. Et quand les enfants de classe supérieure élevés avec les jeux éducatifs arrivent en classe préparatoire, cette indistinction entre travail et loisir est une chose qu'ils vont pouvoir acquérir d'autant plus facilement qu'elle est déjà en germe en fait dans leur disposition enfantine. Et inversement, ça va être une distinction beaucoup plus difficile à acquérir pour les enfants de classe populaire et envers laquelle ils vont au contraire avoir une sorte de méfiance, voire de difficulté ou de douleur à renoncer à cette indistinction forte.
D'accord, et donc finalement c'est aussi, si on pourrait le dire peut-être un peu autrement, c'est vous revisiter un peu les apports de Pierre Bourdieu finalement des années 60, parce que finalement vous parlez de prédisposition du rapport temporel donc acquis dans la famille qui se répercute dans la façon dont on peut devenir finalement un maître du temps dans des classes préparatoires et d'autant plus assurer la reproduction sociale étant issu d'une classe entre guillemets dominante, j'ai acquis un rapport au temps dans la famille qui est de type dominant que je reproduis ensuite à l'école et qui m'assure par la même une espèce de continuité dans la réussite éducative. C'est finalement renouveler un peu les apports de Bourdieu mais en plaçant la question du temps finalement au centre de la réflexion.
Oui, Bourdieu avait travaillé cette question du temps principalement, donc ça rejoint exactement le début de notre discussion parce qu'il l'avait travaillé chez les classes populaires et chez les paysans kabyles qui était une de ses grandes enquêtes sur la Kabylie, sur l'Algérie et donc il avait travaillé le rapport au temps particulier de ces paysans kabyles et ça a vraiment été la base en fait à partir de laquelle il a élaboré la théorie de l'habitus qu'il a fournie à la sociologie française. Donc, effectivement, ces rapports au temps, il les avait travaillés donc chez des dominés, pour reprendre ces termes. Ce que j'ai trouvé intéressant en travaillant comme ça sur le temps dans les classes préparatoires, c'était effectivement de pouvoir faire une modeste contribution en travaillant cette question-là, non plus chez les dominés, mais chez les dominants. C'est-à-dire de l'autre côté, en haut de l'espace social, là encore pour reprendre les termes de Bourdieu, et donc en posant effectivement la question des apprentissages dommages et des effets de ce rapport au temps, non pas en bas, mais en haut de l'espace social.
Moi, j'avais une dernière question, c'est-à-dire que les classes préparatoires semblent être un bon terrain d'enquête pour finalement, qui donne à voir avec acuité finalement l'ensemble des éléments que vous avez pu apporter jusqu'ici, mais est-ce qu'on pourrait pas voir aussi que ça se recompose finalement dans les autres filières et que c'est partout pareil, chaque filière d'enseignement supérieur dispose de ses propres normes temporelles à l'intérieur desquels sont ceux qui arrivent à y satisfaire et ceux qui n'y satisfaisent pas.
Ça, c'est quelque chose que Patricia Loncle a montré en fait, avec l'enquête sur les étudiants rennais. Et puis aussi, je pense au travail d'un ancien collègue, Mathias Millet, qui a travaillé sur une comparaison entre les étudiants en médecine et les étudiants en sociologie. Justement, la façon dont, dans chacune de ces filières, on apprenait un type de rapport au temps particulier. On sait bien que, par exemple, les exercices qu'on demande aux étudiants en médecine, par exemple les QCM, etc., ne sont pas les mêmes que ce qu'on demande aux étudiants en sociologie, les dissertations, les réponses à des questions plus longues, etc. Et que du coup, c'est pas le même rapport au temps qui va s'incorporer dans l'une ou l'autre de ces filières. Et donc, effectivement, c'est quelque chose, je pense que de ce point de vue-là, j'ai jamais considéré les classes préparatoires comme un lieu qui soit totalement spécifique. C'est un des lieux de l'enseignement supérieur et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont particulièrement visibles à cet endroit-là de l'enseignement supérieur, mais pas forcément, qui lui sont pas forcément spécifiques du tout. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travaux à venir en fait sur les étudiants en général, justement sur ces questions, peut-être un peu ces questions assez profondes, peut-être assez difficiles à saisir. Hein, le rapport au temps, c'est plus facile de travailler sur les programmes étudiants explicites en prenant les maquettes, en prenant etc. que sur ces questions de rapport autant qui ont l'air un peu cachés, mais je pense que c'est là aussi qu'on a des choses intéressantes à découvrir.
Et notamment des profils qui seraient totalement pluriels et s'intéresser justement à la question de la perception des étudiants sur leurs usages du temps qui pourraient peut-être des fois être contraints alors qu'on ne s'y attend pas et des fois choisis, mais on pourrait avoir un imbroglio finalement à l'intérieur de tous ces profils avec vraiment une diversité sociologique des profils étudiants dans les usages qu'ils ont de leur temps.
Oui, effectivement, je pense que donc ça c'est aussi quelque chose qui est très visible dans l'enquête sur les étudiants rennais. Mais voilà, moi je ferai dans ces cas-là, vous avez parlé de mon inscription dans la théorie de Pierre Bourdieu. Dans ce cas-là, je ferai ma bourdieusienne pour le dire comme ça, c'est-à-dire que on peut travailler en sociologue sur les choix, mais à mon sens toujours en sachant que ces choix sont contraints et que donc le fait de choisir et le fait de choisir telle chose et non telle autre, ça correspond à des déterminismes sociaux que notre travail, je pense, à nous, sociologues, est de mettre au jour, en fait.
C'était le Labomatique, l'émission de Radio Campus Rennes dédiée à l'actualité de la recherche scientifique. La prochaine fois, le Labomatique s'intéressera au renouvellement des approches sur la biodiversité, en questionnant notamment le rôle et la place de l'analyse juridique en compagnie de la juriste Alexandra Langlais.